Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez la librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Radio Campus Grenoble 90.8 et d'être là aujourd'hui pour ouvrir ensemble cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Cette année encore, pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, en ce 8 mai 2024, je souhaite continuer notre devoir de mémoire à travers la littérature. Je vous ai préparé un corpus littéraire pour ouvrir ces romans, ces témoignages, à la fois essentiels et marquants. Je vous invite à ressortir vos marque-pages du souvenir de la guerre. Nous entrons aujourd'hui dans trois textes indispensables pour continuer à nous souvenir. Le premier texte que je veux vous présenter aujourd'hui est une courte nouvelle que vous pouvez retrouver dans le livre « Le silence de la mer ». Ce livre a été publié pendant la Seconde Guerre mondiale par l'auteur nommé Vercors aux éditions de Minuit le 20 février 1942. L'édition que je vous présente aujourd'hui est celle du livre de poche, disponible depuis février 2018 dans une édition augmentée. La nouvelle du silence de la mer s'ouvre dans le salon d'un oncle et sa nièce, en France, au beau milieu de la guerre. Sous l'occupation, ces deux personnages se voient contraints d'héberger Werner von Ebernach, un officier allemand. Lorsque celui-ci rentre, chaque soir, il fabule sur l'Europe et son avenir, la fraternité, le vivre ensemble. Mais chaque soir, alors que l'officier nazi continue de parler sur ce monde fantasmé, l'oncle et sa nièce restent totalement mutiques. Lorsqu'un soir, il annonce à ses hôtes qu'il va devoir se rendre à Paris pour quelques jours, il n'aura que le silence pour approbation. C'est lors de son retour chez eux, et ayant perdu toutes ses illusions sur le devenir de l'Europe sous le régime nazi, que les choses vont commencer à changer. Le personnage de l'officier allemand est tout à fait fascinant. Pour rien au monde, il est choqué de cet imposant silence de ses hôtes. Chaque soir, le voilà venu parler de culture, par exemple. Jean-Sébastien Bach est un immense compositeur qui surpassera toutes les autres productions culturelles, y compris les auteurs français comme Marcel Proust et d'autres compositeurs français. Vivre ensemble, sous le régime de l'Allemagne nazie, est à ses yeux le seul et unique but à atteindre. L'autre fait percutant de cette courte nouvelle, vous le trouverez à la page 33 de notre texte du jour. Il y a cette métaphore tout droit tirée du conte pour enfants La Belle et la Bête, dévoilant ainsi que la bête, c'est lui, l'officier nazi, qui est le dominant de la belle, que l'on comprend être la nièce. L'officier parle d'avenir meilleur. Pourquoi ne parlerait-il pas d'amour ? Vercors, de son vrai nom Jean Brûleur, a fondé avec son ami Pierre de Lescure les éditions de Minuit durant la guerre, au moment où les publications et les actes de résistance sont sans aucun doute l'un des pires crimes à faire. Ce premier texte, publié à Minuit, au s'écriant de vérité dans toutes ses nouvelles, nous offre un éclairage singulier sur les temps de cette guerre effroyable, le tout en très peu de mots. Le silence de la mer, recueil de nouvelles signées par Vercors, est disponible aux éditions Le Livre de Poche depuis février 2018.
Thank you.
Et nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8, au micro de la librairie des étudiants. Nous venons d'écouter un extrait du Requiem de Mozart, titre extrait de l'album dirigé par Herbert von Karajan, paru en 2007 dans les bacs sous le label Deutsche Grammophon. Nous ouvrons maintenant notre deuxième livre qui compose cette chronique littéraire autour de la Seconde Guerre mondiale. Ce livre s'intitule « Vivre avec une étoile », publié aux éditions de Noël en septembre 2023 et signé par Jiří Veil, un auteur tchèque. Ce roman est enrichi d'une préface de Philippe Roth et traduit du tchèque par Xavier Galmiche. Dans ce roman, nous suivons le personnage de Joseph Rubisek, ancien employé de banque à Prague. Il n'est plus employé à la banque car son pays est désormais occupé par les nazis. Vivant seul dans un grand appartement froid, Joseph survit. Pour avoir chaud et pour chauffer ses repas, il s'est vu contraint de brûler, peu à peu, ses meubles dans le poêle, car il est maintenant impossible pour lui d'acheter du charbon. Les lois mises en vigueur par l'occupant nazi font que sa vie se réduit à une peau de chagrin. Incapable de marcher dans telle rue, de se rendre à la boucherie le matin pour essayer d'acheter un peu de viande. Cette oppression ne semble pas trop, pour autant, affecter le moral de ce jeune homme, résigné quant à la situation qu'il traverse. Lorsque Joseph reçoit néanmoins un jour une convocation par courrier pour se présenter devant le conseil de la communauté au cœur de Prague, il va commencer à avoir peur pour sa vie, à chercher, à légitimer ses faits et gestes de tous les jours. Ce roman se compose autour de la vie de Joseph Rubisek et de ses souvenirs. Lorsque nous rencontrons ce personnage, le jeune homme est seul, dans un appartement froid et vide de tout meuble, sauf par ce lourd poêle à bois en fonte. Joseph subit une immense solitude, dans ce vide qu'est devenu son appartement. Pour vaincre le froid, il a patiemment découpé chacun de ses meubles pour le faire brûler et pouvoir ainsi se chauffer. Le feu met du temps à prendre, notamment pour chauffer ses maigres repas, rendant encore plus difficile la réussite de se réchauffer lui-même. Lorsqu'il sort, Joseph fait face à une administration qui se complexifie et qui se répète, notamment par l'occupation du pays par les nazis. Ce qui m'a frappé tout du long de ce texte, c'est que l'auteur refuse d'employer le terme allemand, nazi, Gestapo, pour désigner l'occupant. Ils sont alors ramenés à des pronoms, il, leur, eux. L'ennemi est toujours là, présent à chaque point de rue, sans pour autant être nommé directement. Même s'ils ne sont pas nommés directement, la menace d'expulsion que font peser les nazis est palpable au fil des pages. Cela se traduit notamment par l'inquiétude de tous les personnages qui gravitent autour de Joseph Rubisek. Et le roman avance dans la perspective de nous montrer comment, en quelques semaines, la société a été entravée par des lois de persécution contre les juifs. Peu à peu, après avoir recensé les juifs dans les quartiers, un couvre-feu est instauré, le port de l'étoile jaune de David est rendu obligatoire sur sa veste au niveau du cœur, et l'interdiction de marcher de ce côté-là de la rue entre aussi en vigueur. C'est frappant de voir comment l'auteur met sur le chemin de Joseph d'autres personnages, travailleurs à l'usine, ou encore son oncle et sa tante, qui vont lui faire voir le monde et cette réalité encore différemment. La phrase la plus marquante restera sans doute celle-ci, prononcée par un collègue du voisin de Joseph, travaillant à l'usine. « C'est leur guerre, mais nous la gagnerons. » Les tensions grandissent, avec, en creux, la faim, la persécution et le froid. Se développent aussi autour de rumeurs d'une déportation dans l'Est, car les nazis auraient besoin de main-d'œuvre pour de grands chantiers. L'Est est synonyme de froid intense, d'un long voyage avec moins de 50 kilos de bagages autorisés, et ce voyage dans l'Est, c'est déjà la mort, rien que d'y penser. Comme pour faire un contrepoint à sa vie misérable, faite d'un petit travail de ramassage de feuilles mortes dans un cimetière et de nourrir un chat le soir, Joseph aime se plonger dans des souvenirs. Il repense souvent à une femme, Rouzena, qui est sans aucun doute un amour perdu. Un amour même devenu impossible, seulement palpable à travers ses souvenirs de bonheur, de joie, avant que ces souvenirs-là aussi se ternissent devant l'inquiétude de voir l'Europe sombrer dans la guerre. Ce roman retrace avec une très grande force la privation de plus en plus forte des Juifs européens sous l'occupation nazie. Au fil des chapitres, les pressions se font de plus en plus fortes. Ce sont toujours des persécutions, mais elles ne sont pas montrées directement. Nous ressentons, au fil des pages, cet étau qui se resserre peu à peu sur le personnage de Joseph, au point de craindre pour lui, davantage en connaissant l'histoire, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Texte aussi bouleversant que captivant, Jiří Veil nous plonge dans le terrible quotidien des Juifs d'Europe, opprimés par un ennemi qui fera tout pour les faire disparaître, à commencer par les culpabiliser en les faisant vivre avec une étoile. Vivre avec une étoile, signé par Jerry Veil et préfacé par Philippe Roth, est publié aux éditions de Noël depuis septembre 2023.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8 au micro de la librairie des étudiants pour ouvrir ensemble cette dernière partie de notre chronique littéraire du jour. Nous venons d'écouter le titre L'affiche rouge, ici interprété par Léo Ferré, titre extrait de l'album Des chansons de sa vie, paru en 2013 dans les bacs. J'ai choisi cette chanson pour faire le lien avec le prochain texte que je souhaite vous présenter. Pour terminer notre chronique de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, je ne pouvais pas ne pas vous présenter ce livre. Je veux m'inscrire ici dans la suite des événements qui se sont tenus le 21 février 2024. Notre dernier livre du jour s'intitule « Missak » et il est signé par l'auteur français Didier Deininx en format poche aux éditions Folio, disponible depuis mars 2018 dans nos librairies indépendantes. Ce roman commence en 1955. Nous suivons le personnage de Louis Dragère, journaliste pour le quotidien L'Humanité. Ce journaliste, habitué à couvrir les faits divers avec son collègue Willy Ronis, est un jour convoqué par le comité central pour une affaire tenue pour le moment secrète. Lorsqu'il se rend à ce rendez-vous au soir indiqué, il apprend qu'une cérémonie est organisée pour commémorer la mémoire de Missak Manouchian ainsi que les actions menées par son groupe de résistants pendant la guerre. Pour préparer des articles de presse sur cette future cérémonie tenue 11 ans après avoir été fusillé, Louis Dragère doit rassembler des informations sur cet homme, figure de l'ombre de la résistance qui a été un des éléments importants avant la libération du pays par les Alliés. Ce roman se construit comme une enquête, une investigation d'un journaliste. Il est facile de sentir que Louis Dragère commence à être de plus en plus intéressé par ce résistant, homme de l'ombre mort en martyr pour participer à la libération d'un pays. D'autant que ce procédé de construction du personnage de Dragère se répond à lui-même. Lui qui couvrait les faits divers avec les enquêtes policières, le voilà maintenant devenu journaliste d'investigation, à interroger des proches de Manouchian pour pouvoir reconstituer sa vie et donc préparer finalement ses articles. Ainsi, le roman de Didier Daeninx donne la parole à la fois aux personnages de l'ombre, à Méliné Manouchian, à Louis Aragon ou encore à Charles Aznavour. Il est assez fascinant de voir l'habileté de l'auteur à reconstituer une époque précise où l'on organise les hommages, notamment ce premier pour l'action de Missak Manouchian. L'auteur pousse ainsi le journaliste à rencontrer de grands personnages, comme le poète Louis Aragon, qui écrira ce fameux poème très célèbre, repris et chanté en partie par Léo Ferré dans la chanson que nous venons d'entendre. Ce roman m'a aussi appris beaucoup de choses, comme le fait que le chanteur Charles Aznavour avait côtoyé le jeune Missak Manouchian. Au soir de sa rencontre avec Aragon, l'histoire de ce roman se relance avec une nouvelle intrigue. En ayant survolé rapidement les notes et les documents du poète, Louis Dragère se rend compte que la lettre dactylographiée de Missak, adressée à Méliné, qu'on lui a d'ailleurs remis lors d'un premier rendez-vous, est incomplète. Des passages ont été censurés. Une partie manque, une ligne, quelque chose qui pourrait sans doute aiguiller le journaliste vers d'autres proches de Missak, vers d'autres personnes qui en savent plus sur ce résistant. Le roman se centre sur les actions de Missak Manouchian durant la guerre, bien qu'elles soient ici rapportées, avec ses actes de résistance menés par son groupe ainsi que sa femme. Car il ne faut pas oublier que les femmes ont aussi eu un rôle très important dans la résistance contre l'occupation nazie. Pour autant, quelques chapitres nous révèlent aussi l'histoire de Missak. La famille de Missak a été une des familles victimes du génocide des Arméniens de 1915. Devant fuir avec son frère, il sera recueilli par une famille. Mais les institutions religieuses finiront par le récupérer. Avide de mots, de culture et pétri d'humanisme, Missak Manouchian rêvera de nombreuses fois de notre pays, de la France, pour en découvrir et partager toutes les richesses. Je crois aussi que ce livre, de par bien des aspects, a la vocation d'être un témoignage de la culture arménienne. Car au fil des rencontres faites par le journaliste Dragère, nous, lecteurs, sommes peu à peu emportés à entendre et à se représenter une culture, des coutumes, le tout enrobé par beaucoup de fierté. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ce roman lors de certaines rencontres faites par ce journaliste. Néanmoins, il reste comme un climat de tension encore très vif dans l'ensemble du roman. Il y a une forme de rapidité dans l'action, dans l'écriture, qui nous pousse à nous dépêcher de savoir, de rencontrer le plus possible de monde pour en apprendre sur Missak Manouchian. Comme si c'était encore la guerre, là-dehors, et que nous avions pleinement conscience de faire quelque chose d'illégal. Ce roman témoigne de la fin d'une époque, d'un monde de répression et de violence qui a été imposé. Mais il nous parle aussi d'une époque. Et à l'époque même où se déroule le roman, il ne faut pas oublier le contexte international qui se déroule, notamment à l'Est. Le monde se divise alors en deux blocs. L'un des deux est constitué par le bloc soviétique. En apprenant que Méliné Manouchian est retourné en Arménie soviétique pour aider son peuple encore opprimé, le roman bascule une fois de plus. De ce roman basé sur une enquête journalistique pour en découvrir davantage sur la vie de Missak Manouchian, le lecteur se verra bouleversé par une histoire d'un homme, d'une femme, d'un groupe à qui nous devons notre liberté aujourd'hui. Une lecture essentielle, en plus des hommages rendus au Panthéon en février 2024, pour dire aussi, par les mots, que nous leur sommes reconnaissants. Missak, de Didier Daeninx, est un roman publié aux éditions Folio depuis mars 2018. Ainsi va la littérature et se termine notre chronique littéraire sur le devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces trois textes essentiels que je vous ai présentés aujourd'hui sont à retrouver dans toutes nos librairies indépendantes pour poursuivre chaque jour ce devoir de mémoire si important. La capsule auditive de la chronique du jour sera retrouvée en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine pour poursuivre nos lectures. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, de perpétuer le devoir de mémoire et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures. Thank you.